Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour, je suis Pierrick Fay, le présentateur de la Story des Échos, et aujourd'hui, on fête nos 5 ans.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.
Et oui, 5 ans à décrypter, analyser l'actualité économique, sociale, financière et géopolitique avec toute la rédaction des Échos. Plus de 1200 épisodes au compteur. On s'est demandé, il y a quelques semaines, comment on pouvait marquer le coup de ce pari. Pas évident, je vous l'avoue, il y a 5 ans, de créer un podcast d'actualité quotidien. On était le premier journal à se lancer avec nos amis du Parisien et on partait vraiment d'une page blanche. On s'est dit que ça serait bien de vous ouvrir les coulisses de la story, de vous expliquer comment on travaille. Et on vous a donc demandé il y a quelques semaines, à vous, auditeurs de la story, de nous poser vos questions. C'est parti. Là, je suis dans le studio de La Story, une petite salle de réunion dans la rédac hein, qu'on a d'abord squatté avec nos micros avant d'en faire un endroit vraiment dédié pour ce podcast. Et avec moi, il y a Willy Gann. Salut Willy.
Salut.
Tu es le réalisateur de La Story. Tu vas nous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste d'ailleurs de réaliser un podcast. Mais d'abord, tu n'étais pas là au début. Hein. Toi, tu as rejoint le navire assez vite, hein, novembre 2019. Ça restait 5 ans pour toi, il faudra attendre un petit peu. Mais avant toi, il y a eu Mathias Arignon, Adèle Itel et Nicolas Jean. Nicolas hein, qui nous accompagne toujours de temps en temps.
Et toujours avec plaisir. C'est d'ailleurs moi qui m'occupe de cet épisode.
Notamment quand tu es en vacances, Willy. Comment est-ce que toi, t'es arrivé aux Échos ?
Ben moi, à la base, j'ai commencé à faire de la radio. J'étais technicien en charge de la réalisation à RMC. Et en fait, il se trouve que j'ai toujours voulu faire du podcast depuis mes études. J'ai commencé à écouter des podcasts avec Arte Radio. Ça m'a beaucoup plu. Le format, j'ai vraiment adoré. Et il y a eu une opportunité aux Échos qui s'est débloquée. Ils cherchaient quelqu'un pour réaliser les podcasts au sein de l'équipe des Échos du podcast. Du coup, j'ai postulé, j'ai rencontré toi, Pierrick, on a dû faire un ou deux entretiens, je crois. J'ai aussi rencontré Clémence.
Clémence, qui est la rédactrice en chef numérique des Échos.
Et c'est allé assez vite, en fait. Je crois qu'au bout de quelques semaines, j'ai été mis en test par Binge Audio. J'ai fait un podcast pour eux, ils m'ont jugé. Je me souviens parce qu'au moment où ils m'ont jugé le podcast que j'ai réalisé, il y avait un chien dans la salle qui est monté sur mes genoux. Et donc, j'ai commencé comme ça, aux Échos, et j'ai appris petit à petit l'économie, un sujet qui m'a toujours passionné, mais dont je ne connaissais pas grand-chose.
Et le chien, c'était chez Binge, hein, je précise, c'était pas
oui.
Ici. Nous.
Non,
on devrait
de
peut-être avoir un chien ou un chat, ça pourrait rendre...
Je suis plus chaud pour un chat.
T'es plus chaud pour un chat. On a déjà eu un chat, d'ailleurs, dans la story. Tu t'en souviens de ça ou pas ?
Non.
C'était une interview, c'était avec Lionel Selman qui s'occupe de l'automobile. Il était chez lui, je crois que c'était pendant le confinement. Puis à un moment, on entend son chat qui miaule derrière.
Ah oui,
bah moi, je ne l'ai pas entendu, mais toi, avec tes bonnes oreilles d'ingénieur du son, bah tu l'as entendu.
Une double motorisation, un GPL plus une motorisation classique qui peut prendre le relais si on ne trouve pas de pompe, par exemple.
Voilà, le chat de Lionel Selman était aussi invité de la story. T'écoutais la story justement à l'époque, toi ?
Oui, j'avais écouté quelques épisodes parce que justement, j'étais passionné de podcast et je cherchais déjà à en faire mon métier. Mais j'y croyais pas trop, j'en avais fait un peu pour d'autres boîtes en freelance et je me disais que j'étais un peu trop jeune pour ça, peut-être que je manquais d'expérience. Et puis à force en fait d'en faire tout simplement, c'est venu, puis l'opportunité aux Échos et... Voilà, j'avais déjà écouté 2-3 épisodes, oui, dont un, je me souviens, qui était sur ce festival assez connu aux États-Unis, le Burning Man. Voilà, celui-là m'avait beaucoup fasciné et c'est ce qui m'avait donné envie, je pense, de travailler sur la story.
Voilà, ça c'était mes questions, on ne se refait pas, hein, c'est mon métier de poser des questions. On va aller vous laisser maintenant à vous, auditeurs de la story, poser vos questions. Et la première, ou plutôt les deux premières, porte sur le nom de la story, Willy.
Alors oui, on a une question de Jeanne qui nous demande « Pourquoi appelez-vous cette rubrique « La story » ?» Cela n'a aucun sens pour les Français. Pourquoi ne pas dire « La nouvelle du jour » ou « Les nouvelles du jour »
ouais, et Michel, d'ailleurs, a aussi réagi alors de façon un peu plus virulente. Hein. « Pourquoi la story ?» Je pense qu'il est nécessaire de réagir et s'opposer à cette tendance, n'en déplaise aux créatifs branchouillés parisiens pour qui il est de bon ton de jargonner en franglais et dont la servilité à cet égard est désormais sans limite. Bon, il n'est pas très content. Alors moi, je ne suis pas branchouillard parisien, je suis breton. C'est vrai que je m'attendais un peu à cette critique sur le nom La Story. Alors, je vais vous expliquer comment on en est arrivé à choisir ce nom. Il y a eu une grosse réunion de brainstorming, de remue-ménage en français avec des gens de Binge qui nous ont aidés à concevoir ce podcast et puis avec des gens de la rédaction. On a beaucoup réfléchi, on a lancé une soixantaine de noms comme ça sur la table, on a discuté. Il n'y a aucun nom qui nous a vraiment au début qui s'est imposé et le nom de la story, il a émergé petit à petit. Alors on aurait pu le faire en français, l'histoire, mais l'histoire c'est très connoté, on pense à la grande histoire. En anglais, en revanche, ça renvoie beaucoup aux réseaux sociaux, aux stories Instagram et ça correspondait finalement à ce qu'on voulait faire, raconter l'économie sous forme d'histoire, raconter les entreprises sous forme d'histoire, raconter des faits. Voilà, donc la story, finalement, ça s'est un peu imposé comme ça. Alors, je comprends que ça dérange, je comprends que ça écorche les oreilles de certains auditeurs et de certains lecteurs des Échos. Moi, je pense qu'une langue, elle s'enrichit finalement au contact des autres langues. Donc, c'est vrai, je suis assez content de ce choix, puis ça sonne bien, la story des Échos.
Je m'appelle Jean-Bille Duval, professeur agrégé de franglais à l'University of Michigan sur Loire, ambassadeur de la franglophonie worldwide et fondateur du collectif Be French, Be Authentic.
Et maintenant, on a une question de Paul qui nous demande combien de personnes travaillent sur le podcast.
Oh là, une vraie armée mexicaine, hein. On est trois. Il y a toi, Willy, qui est réalisateur de la story. Il y a Michèle Varnet, que vous connaissez bien, hein. C'est elle qui m'a souvent remplacé lorsque je suis en vacances. Vous entendez sa voix. Puis il y a moi. Donc on est trois, mais en fait bien plus que ça, hein, parce que c'est toute la rédaction. C'est vraiment le podcast de la rédaction et c'est toute la rédaction des Échos qui y participent, des Échos Week-end et des Échos. Plus de 200 journalistes voilà, qui viennent aussi raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et puis, c'est pas toujours très clair d'expliquer l'économie, mais avec eux, je trouve que c'est souvent limpide.
Plutôt qu'un nombre précis, 6, 8 ou 10, appuyons-nous sur un principe de bon sens. Moins on est nombreux, moins on prend de risques.
Et on a reçu une question de JB aussi qui nous demande « Comment est-ce que vous construisez un podcast et combien de temps cela vous prend ?»
Alors d'abord, il faut que je trouve une idée de sujet. Bon, ça, c'est le préalable. Je vais lire le journal, je vais consulter le site des Échos. Je vais regarder aussi les sujets qu'on a en prévision. C'est en ça hein, que c'est d'ailleurs le podcast de la rédaction. Je discute beaucoup avec les journalistes. Une fois que j'ai le sujet, ben, je prépare l'interview. Ben, c'est ce qui va me demander le plus de temps, entre 1h30 et 3h, hein, selon mon niveau de connaissance du sujet. Ça va plus vite, par exemple, quand c'est des sujets marchés financiers. Beaucoup moins quand c'est de la fiscalité. Ensuite, j'envoie les questions aux journalistes pour qu'ils puissent aussi préparer l'interview. On se donne rendez-vous ensuite pour l'enregistrement. Alors une fois que c'est fait, je vais réécouter ce qu'on a enregistré, je vais fignoler la voix off que je vais enregistrer. Tout ça, ça me prend environ 1 heure. Mais La Story, c'est un podcast quotidien et en fait, je travaille en continu sur plusieurs sujets en même temps. Je peux aussi avoir des journées où je ne fais quasiment que des interviews ou d'autres où je ne vais préparer que les interviews. Bout à bout, je dirais que chaque émission me prend entre 5 et 6 heures de travail effectif, en comptant d'ailleurs la V1 de l'émission que tu auras montée, Willy, car une fois que j'ai terminé les interviews, Willy, c'est à toi de jouer.
Eh bien moi, ça me prend en moyenne 3 heures de boulot par podcast, mais c'est pas fixe, ça peut être aussi bien 1 heure, qui est mon record, comme 6 heures, ça va dépendre de la complexité du podcast en fait. Tout d'abord, on a un drive dans lequel on partage tous les sons et toutes les informations sur le podcast avec un conducteur qu'a créé Pyric, qui est un peu mon guideline. C'est-à-dire que je vais suivre ce conducteur. Dedans, il y a les timings des interviews, les extraits dans les interviews qu'on veut garder pour le podcast. Et il y a aussi les sons qu'on doit mettre dans le podcast. Je prends tout ça, je le monte, je le rends propre, clean, sans répétition, sans bruit de bouche. Je rajoute l'habillage et ça fait un épisode de La Story.
Voilà la journée type hein, de Willy et de moi-même hein, pour que vous retrouviez tous les soirs à 17h le podcast des Échos sur vos plateformes de téléchargement et sur le site Les Échos. Il y a une autre question qui est revenue assez souvent, c'est comment on choisit les sujets. Ça, j'en ai déjà dit un petit mot tout à l'heure, mais c'est vraiment essayer de saisir un peu ce qu'il y a dans l'air du temps, ce qu'il y a dans l'actualité. C'est vraiment, je fouine, quoi. Je passe beaucoup de temps aussi sur les réseaux sociaux, sur le site des Échos, sur les sites des confrères pour voir un peu aussi les sujets qui émergent. Je prends l'exemple d'un sujet qu'on a fait il n'y a pas très longtemps sur les universités américaines qui sont en train de s'enflammer à cause de la guerre à Gaza. Bah voilà, c'est un sujet sur lequel j'y réfléchissais, et puis Solveig, qui est notre correspondante, est allée à Columbia, justement voir ce qui se passait sur le campus de cette université, et là ça a été l'élément déclencheur. Je me suis dit, voilà, là, faut faire un podcast et il faut le faire assez vite. Voilà, donc j'ai appelé Solveig et 2 jours après, on a enregistré.
Donc voilà, c'était un mélange d'ambiance assez bon enfant et aussi avec ces moments d'animation un peu durs, des choses un peu plus menaçantes, avec des slogans qui sont scandés par tout le monde, le bruit du tambour, etc. Voilà, c'était un mélange.
Un petit peu d'ambiance à Columbia avec ce son capté par Solveig sur place. Alors Michel vient de nous rejoindre dans le studio. Salut Michel.
Bonjour.
Chargé de production et d'édition de La Story. Je répondais aux questions sur le choix des sujets. Comment est-ce que tu fais toi pour les choisir?
Alors je vais parler de ce que je fais, c'est-à-dire la série sur les Jeux Olympiques en ce moment. Alors l'idée c'est de choisir des sujets qui collent au calendrier et aux préoccupations des gens. Sur les JO, en fait, on a un petit peu fonctionné très en amont puisqu'on a choisi les sujets dès le début de l'année. Et l'idée, c'était d'aller crescendo justement sur les préoccupations des personnes. L'emploi était un gros sujet qui avait démarré depuis des mois, qui a été diffusé en février. Et plus récemment, il y a eu la question des transports qui commence à sérieusement monter et il y en a d'autres à venir.
Ouais, effectivement, et on vous donne rendez-vous hein, tous les mois hein, pour cette série spéciale autour des JO. Le prochain épisode, Michel, portera sur quoi?
Alors, je peux un petit peu le dévoiler. C'est quand même une grande question qui commence à se poser. Là, je viens de passer Place de l'Étoile et j'ai vu des dizaines de cars énormes. Donc, la grande question des JO, c'est quand même, sont-ils bons ou non pour le tourisme?
Une question de Xavier maintenant. Il nous dit « J'adore votre podcast, on apprend des choses, c'est abordable et rapide, tout ce qu'on aime le matin en partant travailler. » Une question pas très technique, mais qui a toute son importance. Qui choisit et comment choisissez-vous la bande-son des podcasts? Cela y ajoute un charme fou et c'est toujours drôle. Merci et on se revoit pour la question des 10 ans.
Ouais, en disant, écoutez, j'espère que La Story sera toujours autant appréciée dans 5 ans. Question aussi de Julien, dans la même idée, comment choisissez-vous les sons, extraits de films par exemple, que vous utilisez? Est-ce que vous faites un stock ou est-ce que vous cherchez en fonction des sujets que vous traitez? Alors ça, c'est une réponse en deux temps. Le premier temps, c'est que quand Michel fait le podcast ou moi-même, on essaye de trouver des sons qui vont bien avec le sujet qu'on va traiter ou avec également en lien avec la réponse que va donner les journalistes. Alors ça peut être des sons de journaux télévisés, ça peut être des sons historiques de l'INA par exemple, ça peut être des sons de films ou parfois de chansons vraiment en rapport avec l'actualité. Donc moi ou Michel, on a une idée quand on prépare l'interview ou après avoir fait l'interview, on a des idées comme ça qui nous viennent, on a des références, notamment de films qu'on a pu voir, de séries qu'on a pu écouter, de chansons. Voilà, c'est un peu toutes ces références qu'on va avoir et qu'on essaye aussi de mettre dans ce podcast. Moi, je les mets dans le conducteur que je fournis à Willy, et puis Willy, c'est un peu le juge de paix, il arrive, hein, et là, tu me dis, ça, c'est pas... Et c'est quoi ta phrase fétiche?
Ça, c'est pas radiophonique.
Ah, et ça, qu'est-ce que je l'ai entendu? Comment est-ce que toi, c'est quoi ton secret, là aussi, Willy? Parce que c'est vraiment co-construit, là aussi, les sons, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille aussi ensemble. Hein.
Oui, c'est un vrai travail d'équipe. Pierrick a ses idées, j'ai les miennes. Dans un premier temps, c'est des idées qui nous arrivent comme ça, en écoutant l'interview ou en relisant le conducteur. Mais en fait, on a aussi parfois des sites internet qui nous permettent de trouver des sons où on va sur YouTube tout simplement, on va taper des mots-clés et trouver des sons qui sont en rapport avec le podcast. Tout ça dans une approche radiophonique. C'est le fait d'utiliser les contraintes qu'on a en podcast ou en radio, le fait qu'il n'y ait que du son, il n'y a pas d'image. et de se dire, sans l'image, juste en écoutant ce son, qu'est-ce que ça va me dire? Qu'est-ce que ça va rajouter au podcast? Le but, c'est d'ajouter quelque chose. C'est pas juste de mettre un son de pelleteuse parce qu'on parle de pelleteuse, par exemple. Le but est vraiment de créer un pif et un paf, une question, une réponse, qui est une véritable relation entre le son et la voix.
Ouais, et ça, ça marche parfois très bien. Moi, je me souviens, c'était justement quelque chose qu'on avait fait ensemble, le fameux chat GPT.
Exactement. Un de mes hauts faits d'armes dans la story.
Voilà, et c'est vrai qu'on a parlé hein, de ce ChatGPT version francisée, y compris dans la rédaction. Ça avait beaucoup fait rire Clémence Lemestre. C'est toujours mieux quand c'est la patronne qui rigole quand on dit des bêtises. Voilà, c'est vrai qu'on essaye de mettre aussi des sons pour aérer un peu le podcast, quand bien sûr le sujet le permet. Là aussi, pour avoir un petit clin d'œil, donner des petits clins d'œil et faire sourire aussi les auditeurs, parce que ça fait du bien. On a un petit aperçu justement de ce qu'est le travail là, du réalisateur avec les sons. Willy, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste justement ce métier de réalisateur de podcast?
Alors le travail d'un réalisateur en podcast n'est pas si loin du travail de réalisateur de film. Le but est de consolider plein de petites parties en un seul bloc qui soit fluide avec des hauts, des bas, de la lenteur, de la rapidité. Que vous ayez envie d'écouter le podcast de la première à la dernière seconde et de mettre en place une direction artistique qui va vous faire rentrer dans le podcast avec nous.
Et tu fais ça avec rigueur et rapidité et c'est comme ça que tu as gagné aussi un surnom Speedy Willy.
Hoppa ! Andale, andale, andale ! Arriva, 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 arriva ! Venga, venga, Minepo !
Alors on a aussi une question de Jérémy Mani que j'ai reçue sur LinkedIn. Alors, je donne son nom hein, parce que c'est important, c'est le créateur du podcaston auquel la story participe, où on met en avant des associations. Je trouve que c'est une initiative formidable. Alors il me dit sur LinkedIn, j'ai une question Pierrick, comment les collègues des Échos de Culture Presse Écrite voient l'évolution de ce podcast audio? J'espère qu'ils le voient plutôt bien. En tout cas, moi, j'ai pas besoin de sortir le martinet, la chicotte, comme on dit, pour les faire venir dans le studio. Mais je crois que le plus simple, finalement, ça a été de leur demander. Bah, je suis allé voir plusieurs personnes dans la rédaction des Échos. Alors, d'abord, Ninon Renaud, bah, voilà ce qu'elle m'a dit.
Alors, c'est plutôt une fierté parce que ce podcast, c'est la vitrine du travail des journalistes de la rédaction. Donc, c'est chouette. Et puis, c'est aussi un plaisir. Alors, certes, c'est du travail. Hein, quand Pierrick vient nous voir, on se dit, il va falloir travailler parce que c'est un autre format. Et puis, quand on est en presse écrite, c'est pas toujours facile de s'exprimer à l'oral. Mais c'est aussi un moyen de donner plus de chair à des enquêtes où on a des formats qui sont assez contraints dans la presse écrite. Et là, on peut raconter davantage et donner autre chose à voir. Et finalement, on a un peu plus de temps parce que sur une page ou sur 50 lignes, c'est quand même plus compliqué. Et donc là, on a l'occasion de donner un peu à voir les coulisses de notre propre travail. Donc, c'est plutôt sympa. Et finalement... on est assez content quand Pierrick vient nous voir.
Tant mieux, parce que je me souviens, quand vous étiez correspondante en Allemagne, je vous ai fait travailler quelques week-ends.
Oui, bah oui, oui, bah oui, parce que moi, je n'aime pas improviser. Donc, en général, je me dis, bon, il faut que j'écrive tout ce que j'ai à dire, parce que sinon, je vais bugger, et puis ça va être une catastrophe. Et donc, il faut que je structure ma pensée. Et puis, c'est vraiment une autre écriture, en fait, l'oral, par rapport à l'écrit.
Je suis allé voir aussi Richard Hillot du service international. Il n'avait pas trop le temps de me répondre. Il s'apprêtait à partir en reportage. Bah, comme c'est moi, il voulait me faire plaisir, bah, il m'a envoyé ce petit message un peu plus tard.
Personnellement, je trouve que le podcast de Pierrick est un bon complément par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire en presse écrite. Je pense que pour un auditeur de ce podcast, il est plus chaud d'entendre la voix d'un journaliste et de s'intéresser à un sujet qu'il a traité dans un papier paru sur la presse écrite. C'est plus chaud, c'est plus vivant, c'est plus dynamique. Je souhaite vraiment une longue vie à ce podcast auquel je prends plaisir à participer.
Puis il y a une troisième personne que je suis allée voir, c'est Marina. Et comme souvent, Marina, elle avait pas mal de choses à dire.
Ce que j'aime dans ce métier, ce qu'on aime dans ce métier, je pense, c'est apprendre à raconter des histoires. En fait, moi, j'ai choisi vraiment ce métier parce que c'est un des rares où je peux être employée, payée, pour apprendre, pour être curieuse. Et le restituer à l'oral, c'est vraiment une façon de restituer d'une autre manière ce qu'on a appris, de raconter une histoire. On est un peu les conteurs, mais des conteurs de la réalité. Et participer à un podcast, ça nous oblige à dire des choses peut-être plus simplement, de reformuler nos phrases. Il faut se dire que la personne qui va nous écouter, elle est dans sa baignoire, dans sa voiture, dans le métro, où elle s'endort. Et donc, il faut vraiment qu'il nous écoute. Et donc, il faut avoir un langage peut-être plus clair, plus accessible. On s'adresse à chacun, on ne s'adresse pas que à nos lecteurs qui ont fait, eux, l'effort de nous lire. Donc, ça nous oblige peut-être plus à un effort de pédagogie. Et ça nous donne aussi un autre rapport avec l'auditeur, peut-être plus intime qu'avec le lecteur. On lui parle directement. Et peut-être même qu'à l'oral, on peut insuffler une dose d'enthousiasme sur les sujets que j'ai à traiter. Parce que les auditeurs ne savent pas forcément, mais on vit un peu nos sujets. Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre mes sujets carrément. Pourtant, ils sont loin de moi. Enfin, je veux dire, le tech et les médias, quand je traite des GAFA américains, c'est quand même très, très loin de moi, objectivement. Et
pourtant, plus belle la vie, c'est beaucoup plus près de vous.
Plus belle la vie, c'est plus près. Mais quand on parle des GAFA, quand on parle de plein de sujets, c'est quand même très loin de nous. Mais moi, je les vis. Il y a un peu le cœur qui s'accélère quand j'apprends une info intéressante. Il y a certains sujets qui me génèrent des émotions. Et ça, peut-être qu'on peut plus facilement aussi le restituer à l'oral et faire passer cet enthousiasme qu'on a eu. Et enfin, j'ai envie de finir quand même pour dire qu'on est toujours fiers de savoir que notre sujet est réutilisé, que le temps qu'on a passé à enquêter, à passer des coups de fil, c'est pas simplement utilisé pour un papier, mais également c'est réutilisé pour un podcast. Parce qu'il faut le dire quand même là encore à vos auditeurs qui ne connaissent pas forcément notre métier. Hein. Notre métier, c'est pas juste d'écrire. Notre métier, c'est passer des coups de fil, passer du temps à des coups de fil, passer du temps à faire dire des choses à des gens qui n'ont pas envie forcément de nous parler, passer du temps à vérifier, passer du temps à donner du contexte, à rechercher des informations pertinentes et si possible inédites. C'est tout ça notre métier. Et de pouvoir le réutiliser sous une autre forme qui est l'oral, c'est intéressant.
Et Marina, c'est vrai qu'elle aime beaucoup les podcasts, à tel point qu'elle a rejoint la petite équipe qui travaille en ce moment sur un nouveau projet pour la fin du mois. Je ne vous en dis pas plus. Mais ils sont trois, hein, Samir, Joséphine et Marina. Ils vous donnent rendez-vous au moment de VivaTech, voilà, pour un nouveau podcast que vous retrouverez sur le fil de Takeoff, un ancien podcast des Échos. Allez, ça va peut-être vous donner une petite indication de ce qu'on veut faire.
Bonjour, je suis Marina Alcaraz. Vous écoutez Les Échos de l'IA, le podcast des Échos, dédié à l'intelligence artificielle.
On a reçu aussi un message très sympa de Frédéric qui partage son expérience d'écoute. Il nous dit « Je suis ce genre d'auditeur qui rafraîchit irrémédiablement son appli vers 17h pour découvrir votre choix de sujet du jour, puis le télécharge pour l'avoir à disposition sur mon trajet retour, quitte à devoir faire un détour avant de rentrer chez moi pour finir le sujet du jour et en découvrir tous les angles. Ma question tout de même, avez-vous des sujets d'avance au cas où et si oui, combien ?»
Ah oui, on a quelques sujets de côté. Moi, je suis un peu comme un écureuil. J'aime bien avoir des noisettes pour l'hiver. Ça permet de sécuriser parce qu'on n'est pas à l'abri des impondérables. Je vous donnais un exemple récent. Mercredi dernier, je voulais faire un sujet à la veille de la grève des contrôleurs aériens pour expliquer ce qui se passait. J'avais donné rendez-vous à Bruno Trévidi qu'on devait enregistrer le matin, mercredi, à 11h dans le studio de La Story. Puis à 11h05, je reçois un message. Le principal syndicat vient d'annuler son préavis de grève. J'essaie de comprendre ce qui se passe. À plus tard. Donc là, le podcast était gentiment en train de tomber à l'eau. Donc on l'a repoussé. On s'est dit, on va voir si on le fait ou pas le lendemain, ce qu'on a fait. Et il fallait une solution de rechange. Alors parfois, j'ai des choses qui sont en PAD. On en avait un. Mais j'avais une interview toute fraîche que je venais de faire à 10h, donc une heure plus tôt, avec Grégoire Poussialgue, qui revenait de Mayotte, où il était fait un reportage. Donc vraiment, c'était tout chaud. Hein. Ça sortait de boîte. Je me suis mis tout de suite sur le timing. Et à 17h, Willy avait bien travaillé, le podcast était là.
Vous avez eu chaud, hein? Tenez, buvez ça.
C'est de l'alcool de mire, ça va vous requinquer.
Ah, c'est vrai, alors au final, hein, j'ai toujours 4 ou 5 sujets que je garde au chaud. En général, ils ne sont pas encore prêts à diffuser. Michel, toi, tu voulais ajouter quelque chose sur les épisodes d'avance?
Alors oui, les épisodes d'avance, en l'occurrence pour les Jeux Olympiques, ce sont des épisodes d'avance à la fois oui et non. Parce que en fait, les sujets ont été fixés à l'avance, mais on a toujours cette équation quand on est un podcast d'actualité, c'est de coller à l'actualité. Donc il est quand même difficile de faire réellement les podcasts à l'avance. Mais déjà, quand on a les sujets, c'est un grand pas de franchi.
Parce que souvent, on les retravaille. Hein. Il faut le savoir qu'on retravaille parfois le texte jusqu'à quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, parfois avant la diffusion. Hein.
Ah oui, on peut ajouter des pastilles jusqu'au dernier moment qui collent justement à l'actualité, ce que les auditeurs ont envie d'entendre.
Et Frédéric, en tout cas, merci pour ce message qui est un bel encouragement à poursuivre pour 5 nouvelles années. Au moins, kampai, comme on dit au Japon. Et je relaie aussi votre merci aux équipes des Échos pour les grandes histoires de l'écho. Un autre bijou, écrivez-vous dans mes abonnements podcast. Ben, c'est Willy, justement, à la réalisation de ce podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes de téléchargement. Et Pauline Jacquot, également, à la présentation qui fait un travail formidable.
Je suis Pauline Jacquot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Et nous partons ensemble à la rencontre de ces géants qui sont un jour tombés de leur piédestal.
Alors le podcast des Échos, c'est aussi le podcast de l'écho. Et on n'échappe pas, Willy, à des questions, j'ai envie de dire, cœur de cible des lecteurs.
Oui, on a Nicolas qui veut savoir quel est l'épisode qui a le mieux marché depuis la création.
Ah, pour une fois, je ne vais pas vous abreuver de plein de chiffres, mais sachez qu'il y a 3 épisodes qui ont fait plus de 100 000 écoutes. Alors, c'était surtout en février et mars 2020. Vous allez comprendre pourquoi. Le podcast le plus écouté, il s'appelle Coronavirus, l'hôpital en alerte. Le deuxième, le coronavirus peut-il plonger le monde dans la récession? Et le troisième, Coronavirus, le combat de la communauté scientifique a commencé. 3 sujets coronavirus. Alors, on a des sujets qui ont très très bien marché aussi, hein, sur les taux négatifs, sur la guerre en Ukraine aussi. Puis des sujets un peu plus sympas comme la révolution ChatGPT qui ont aussi été très très appréciés des auditeurs.
Une autre question, comment se démarquer dans le milieu concurrentiel du podcast quotidien, demande Procépin.
Eh ben, merci pour la question. Elle est pas simple, hein, celle-là. Alors, c'est vrai d'abord que l'environnement concurrentiel s'est étoffé depuis quelques années. Alors, comment est-ce qu'on essaye de se démarquer? Eh bien, en proposant chaque jour une émission qui s'appuie sur l'expertise de la rédaction, sans polémique. En 20 minutes, on va analyser, décrypter un fait d'actualité pour que les auditeurs puissent se faire une idée et comprendre les enjeux derrière l'info. On essaye aussi de partager notre goût pour l'actualité. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi.
Bien dit, Jack.
Tout à fait.
On a reçu aussi un courriel de Théo. Il nous dit qu'il aime bien nous écouter tous les jours, mais il aimerait bien aussi avoir les coulisses. Alors, on a essayé de vous donner un aperçu de la façon dont on travaille avec ce podcast. Mais pour avoir un autre aperçu des coulisses, il y a le travail des réseaux sociaux qui mettent en avant le podcast. On va en dire un mot avec Marie Scutiero. Bonjour Marie.
Bonjour Pierry.
C'est gentil d'être venu nous voir. On peut voir les coulisses un peu de la story aussi grâce à vos vidéos?
Eh bien oui, sur les vidéos, on fait des teasers du podcast. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on écoute le podcast, on essaye de trouver des moments qu'on trouve forts pour les réseaux sociaux et qu'on peut facilement détacher du reste du podcast et on en fait des teasers. Donc ça peut être soit un teaser avec seulement l'audio et on va l'illustrer avec donc des images, ou alors si on a un invité qui accepte également d'être filmé comme récemment Roland Jourdain, eh bien, on le filme et puis on fait un petit montage également pour mettre en avant le podcast et le distribuer sur tous nos réseaux sociaux.
Et ça marche bien ?
Ça marche plutôt bien, oui, notamment sur LinkedIn où ça plaît pas mal. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'avec le podcast, on aborde vraiment tous les sujets. Donc, on peut toucher des publics très différents selon les réseaux sociaux. Des sujets de très grand public pour Facebook ou Instagram, ou des sujets un petit peu plus vie professionnelle pour LinkedIn.
C'est vrai que Roland Jourdain, ça donne une vidéo vraiment très sympathique. Il y en aura une très prochainement autour de la sociologie du jeu vidéo. Là, on vous donne rendez-vous, bien sûr, sur la story des Échos. Et on va prendre une dernière question, Willy, et on va parler gros sous.
Une dernière question de Johan qui nous demande quel est le modèle économique d'un podcast, en particulier celui de la story. Combien les plateformes comme Apple Podcasts et autres vous reversent-elles? Alors pour répondre à cette question, on va demander à Julien Péchard qui est manager de l'équipe produit au sein de la direction numérique des Échos.
Il y a plusieurs modèles économiques possibles, mais celui de la story, c'est totalement basé sur la publicité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous lancez un épisode de la story, vous avez d'abord des publicités qui se lancent avant l'épisode. Vous en avez aussi à la fin de l'épisode. Mais c'est vraiment le modèle qui nous permet de faire que vous écoutez la story chaque jour en podcast gratuitement.
Pas d'abonnement, hein, c'est un...
Non, pas d'abonnement. Effectivement, que vous soyez abonné ou pas aux Échos, vous pouvez écouter la story sur la plateforme de podcast de votre choix. Après, si vous êtes abonné aux Échos, c'est encore mieux.
Combien les plateformes comme Podcast Apple et d'autres nous reversent-elles ?
Eh bien, nous reversent rien du tout. On n'a pas signé d'exclusivité ou de deal de distribution particulier avec ces plateformes. Donc, c'est uniquement la publicité qui fait vivre la story aujourd'hui.
Ah, et qui nous fait vivre nous, hein, les journalistes des Échos. Hein.
Exactement, c'est ça, Pierrick.
Et merci Julien, merci aussi à Marie et puis à toute la rédaction des Échos qui a participé et qui participe tous les jours au podcast des Échos. Merci aussi Willy, c'est un plaisir de travailler avec toi depuis presque 5 ans maintenant à la réalisation de ce podcast.
Plaisir partagé.
On espère que vous avez passé un temps agréable aussi dans les coulisses de la story avec nous. On vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau podcast de la story des Échos. Puis n'oubliez pas, pour rien rater, le plus simple c'est de vous abonner. C'est aussi une façon de soutenir finalement notre travail au quotidien et le travail de la rédaction des Échos. Je vous dis à très vite. Merci de votre fidélité.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.